Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le premier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec son ex-président Hervé Delouche qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors, au sommaire de ce Variation en noir du mois de janvier 2017, exceptionnellement deuxième vendredi du mois en raison notamment du déménagement des studios au PFM, et voilà, nous sommes bien installés dans ces nouveaux studios et donc d'attaque pour une nouvelle année Hervé de Variation en noir. Alors, au sommaire de ce mois de ce Variation en noir du mois de janvier, un recueil de nouvelles, Métal amer, que tu m'as fait découvrir, de Yvon Coquille aux éditions Sixto, un regard sur une nouvelle de Russell Banks, et puis un gros plan sur le dernier numéro de la revue 813, et nous n'oublierons pas non plus Hervé l'exposition qui aura lieu à la Bidipo très prochainement. Mais pour commencer, Métal amer, Yvon Coquille aux éditions Sixto, direction Brest, direction la Bretagne, avec peut-être un petit mot pour commencer à propos de l'éditeur Sixto. On en a déjà parlé dans Variation
en noir. On en a déjà parlé, oui, l'occasion de la publication de Sayonara de Pascal Millet, qui montrait que même si Sixto est un éditeur basé en Bretagne, voilà, ça n'était pas un éditeur au sens régionaliste, puisque Sayonara qu'on avait aimé se passait dans les fins fonds dans les profondeurs de la campagne québécoise.
Voilà, au Canada. Donc là, par contre, voilà, avec Métal amer, on est au fin fond de la Bretagne. Enfin, on est à l'extrême.
On est à Brest. Ouais. On est à Brest où Yvon Coquille lui-même a travaillé pendant 30 ans, je crois, comme charpentier, comme taulier sur les chantiers navals. C'est Métal amer, c'est un recueil de 11 nouvelles qui se place d'entrée de jeu sous... Il y a une double citation, une double exergue au début du livre, l'une de Jacques Prévert qui place le recueil sous le signe de la colère et de la poésie, et l'autre d'un auteur qui est moins connu, que moi j'aime énormément, qui s'appelle Georges Hivernaud, qui est un auteur qui a peu écrit, mais notamment on peut trouver aux dilettantes La peau et les os et Le wagon à vaches. Georges Hivernaud, il y racontait c'était à la fois des choses un peu autobiographiques et un peu fictionnées. Il y racontait sa captivité en camp en stalag, son retour, et il y racontait surtout un peu les bassesses du quotidien, une certaine médiocrité des hommes, en tout cas une sorte de littérature, comme on dit, à hauteur d'homme. Et c'est ces deux aspects, c'est pour ça que je parle de ce double patronage qu'on retrouve chez Yvon Coquille, avec en plus hérité aussi de Prévert, enfin si on fait un certain humour, une certaine drôlerie. Ces 11 nouvelles qui racontent, c'est des tranches de vie autour de l'arsenal, autour de la vie d'ouvrier, autour des luttes également, autour des accidents, autour de la vie quotidienne, débordée en mobylette, des des longs passages dans les troquets, dans les rues près du port, des balades, des errances vers le pont de Recouvrance. C'est toute cette poésie urbaine et industrielle de Brest qui est en toile de fond. C'est des belles nouvelles avec à chaque fois une jolie chute. Je pense à la première nouvelle du recueil, par exemple, où il y a toujours un côté assez noir et il y a aussi une certaine drôlerie, comme je disais. C'est la nouvelle, je crois, qui s'appelle Enrade, et puis où il va y avoir une manifestation d'éleveurs, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Des dizaines et des dizaines de cochons vont envahir les rues de Brest. Il y a certains prolos qui vont se servir aussi. Il y a un cochon qui va finir dans une coffre de voiture. La voiture elle-même va finir dans le bassin, etc. Enfin bon, je trouve que Yvon Coquille, il réussit une sorte d'alliage du meilleur de ce qu'on a appelé le roman prolétarien et d'un certain type de roman noir avec cet humour, ce léger humour caractéristique. Il y a évidemment des luttes, comme j'ai dit, c'est pas un chromo, il n'y a pas des drapeaux qui flottent au vent dans sa prose. On est au plus près des hommes et des femmes qui vivent cela, mais je ne sais pas quel est ton sentiment, cher Guy.
Oui, effectivement, c'est pas du tout du documentaire, hein. Ce sont des nouvelles, même si quelque part un témoignage. La plupart situent quand même il y a 20-30 ans, peut-être. C'est
oui.
aussi des souvenirs. On repère ça aux voitures, des R5, des choses comme ça, aux mobilettes.
Les mobs 49.9, oui,
donc,
absolument.
Les bleus. Donc, on est vraiment dans le milieu du monde ouvrier, de la construction navale, des chantiers, tu l'as dit. Et à chaque fois, un petit dérapage
oui.
qui fait justement que il y a aucune, on n'est pas du tout dans l'incantation, il n'y a pas non plus de manichéisme, hein, c'est pas les bons contre les mauvais,
non.
Les bons ouvriers contre voilà. Donc il y a aussi, moi il y a une nouvelle qui m'a vraiment intéressé, c'est une nouvelle où un ouvrier est victime d'un accident du travail, enfin c'est ce qui est perçu par tout le monde, et puis au niveau de la chute on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça, et c'est vraiment étonnant, quoi. Donc ça donne vraiment pour moi cet aspect, donc on est baigné dans un monde, mais c'est une approche vraiment fictionnelle, intéressante, bien ficelée. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, Hervé.
Oui,
merci
de m'avoir
fait découvrir encore ce...
C'est ça, c'est quand même assez rare quand des textes s'emparent comme ça sont sociaux, sont des textes en plus d'ouvriers faits par un acteur des choses, mais arrive à rendre à la fois toute cette humanité, toute une drôlerie, comme tu dis, en évitant complètement le côté documentaire ou le côté j'allais dire à thèse, je sais pas comment, voilà. C'est vraiment c'est un bel écho littéraire, c'est avant tout ça, et c'est absolument remarquable et quand même assez rare. Il y a
des histoires d'hommes et de femmes en fin de compte, Hervé.
Oui,
et voilà, et rien de trash.
Et tu l'as souligné, cet art de la chute, souvent quand même il y a quand même un certain nombre de ces 11 nouvelles réservent des petites surprises finales, et par touche comme ça il réussit vraiment vraiment très bien ça. Nous qui aimons Jean Amila, Jean Mecker, je pense que Yvon Coquille à avoir aussi de ce côté-là. disons.
Et en plus, il transmet bien son âme, enfin, je sais pas si l'amour, mais son amour de la Bretagne, enfin. Et c'est vraiment aussi très intéressant de ce point de vue-là, un regard sur Brest. Bon, pour les gens qui connaissent un peu la Bretagne, un peu Brest,
On s'y retrouve. C'est rigolo parce que Yvon Coquille, il a fait le texte d'une BD publiée d'ailleurs aussi par les éditions Sixto, dont le dessin magnifique est signé de Briac. Et la BD et le livre s'appelle Quitter Brest. Et donc Brest qu'il connaît comme sa poche, évidemment. Et en fait, voilà, ça s'appelle Quitter Brest, mais
on a l'impression que
ne réussit jamais à quitter Brest.
Voilà, c'est ça.
Il en restitue plutôt cette espèce de pouvoir d'attraction de cette ville qui n'est pas une ville monumentale, qui n'est pas une ville en général, c'est pas la première destination touristique vantée par les guides du même genre, et en même temps c'est toute cette âme très très forte que dans un autre genre, Prévert cité au début chantait dans Barbara, enfin etc. C'est-à-dire Brest, c'est une ville à mon avis profondément poétique et qui ne peut qu'être attractif pour l'amateur de romans noirs, je pense.
Oui, effectivement, on ne quitte pas Brest quand on travaille. On travaille dans les chantiers, alors que bah justement, Brest, c'est une ville, c'est un port, donc c'est aussi une ville de circulation, d'arrivée, de départ. Et ouais, donc c'est vraiment en fin de compte, on aborde, enfin, Yvon Coquille aborde la complexité hein, de l'être humain, mais de manière très simple, en fin de compte.
Oui, je trouve que la moindre scène dans l'usine, la moindre scène de bistrot est très prenante, et puis. Si tu m'y autorises, juste quelques lignes. Là,
vas-y.
C'est le début d'une nouvelle qui s'appelle Camping de la Rade. Le vent souffle en rafale et fait tanguer la caravane, m'obligeant à lever le pied. Je prends le boulevard de contournement et passe devant l'hôpital. Au carrefour, apparaît le premier panneau indiquant le camping de la Rade, terminus de mon voyage. Je rétrograde pour dépasser un poids lourd et ma vieille Mercedes lâche un panache de fumée noire. Depuis qu'on s'est séparés, Delphine et moi, j'ai pris la route. Soudeur intérimaire. On avait tellement de dettes que je n'ai pas vraiment eu le choix. Sans parler de nos deux filles qui avaient des habitudes de princesse que l'adolescence a encore aggravées. Je longe les côtes de France, de chantier naval en chantier naval. Je trouve qu'il y a une extrême économie de moyens, une extrême simplicité, et en même temps, on est déjà sur le siège à côté de ce gars-là, quoi.
Et puis bon, Hervé, hein, et puis le vent souffle en rafale, donc
oui.
On est dans l'actualité météorologique.
Il me semble. Ouais.
Donc, on recommande un fortement Métal amer de Yvon Coquille aux éditions Sixto.
Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice is just what they preach. Those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill. I'm pushing my wheel of love.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en Noir, Nick Cave and the Bad Seeds. Hervé, ça te dit quelque chose? Et Hervé,
c'est un des titres de la playlist de Franck Bouist, je crois.
Alors, exactement.
Dans le dernier numéro de 813, et par ailleurs, c'est aussi eux qui font le générique, si je ne dis pas de bêtises, d'une série que je vous recommande qui s'appelle The Peaky Blinders, qui est une série, alors là aussi très sociale, très noire et tout, qui commence à Manchester en 1918 avec une espèce de, c'est pas Gangs of New York, c'est Gangs of Manchester, avec sous fond de fin de la guerre de 14, révolution russe, révolution irlandaise et des gangs de quartiers très pauvres, remarquables.
Alors, donc j'ai choisi ce morceau effectivement parce qu'il est dans la playlist. On va y revenir rapidement, hein, que propose Franck Bouist, hein, c'est un rendez-vous régulier de la revue 813, mais surtout Hervé. Et j'ai d'ailleurs été surpris. Un des personnages de Yvon Coquille de Métal à Mer, écoute, Nick Cave and the Bad Seeds, hein, il buce au café en écoutant
des
vieux disques.
Voilà. Qui est malgré tout plus pointu que Led Zeppelin, qui évidemment, dans ses années racontées, passe dans les jukebox des bistrots.
Voilà, oui. Donc j'ai d'ailleurs été surpris, hein, parce qu'en plus c'est une nouvelle qui a réuni quatre personnages qui sont à la retraite.
Oui, donc, bah oui.
Mais voilà.
On a écouté Nick Cave très jeune.
voilà. Donc, c'est intéressant. Donc le lien est fait. Et donc un mot, Hervé, sur le dernier numéro de la revue 813. Donc l'édito, c'est tout. Hein, c'est la nouvelle présidente de l'association qui le signe, Corinne Nédé.
Hein, oui.
Voilà. Alors, on va pas.
Absolument.
S'attendre sur l'édito.
Et d'ailleurs, assez raccord dans tout cela, c'est que. Elle cite notamment assez longuement le livre que nous venons de chroniquer, Métal à Mer, dans son éditorial, comme un écho à ses auteurs de romans noirs, notamment américains comme Ron Rash ou Thomas Kelly.
Frank Beal, elle cite aussi Frank Beal.
Frank Beal également, et puis il y en aurait d'autres, mais qui sont très attachés aux gens de peu, aux laissés pour compte et à un certain roman noir et social.
Brest, chantier d'aval, rien à voir avec la Suisse, Hervé. Donc j'ai quand même été surpris de découvrir le dossier, la Suisse, l'autre pays du polaire.
Oui. Eh ben écoute, c'est quand même aussi une des missions, si l'on peut dire, de la revue 813, d'ouvrir parfois sur des, là je ne parlerai pas de continents, mais sur des espaces un peu inexplorés ou un peu inattendus du polar. Et là, c'est un universitaire, je crois, Giuseppe Merone, un auteur de polar un peu connu quand même, Joseph Incardona, qui a un certain nombre de livres derrière lui, qui nous ont proposé ce dossier est sur le polar francophone, c'est-à-dire le polar de Suisse romande, et les spécificités éditoriales et aussi de genre littéraire qui s'en dégage, qui s'y font jour. C'est peut-être pas si étonnant non plus, parce que bien évidemment les zones sinistrées sont évidemment la source un peu naturelle d'excellents romans noirs, mais j'allais dire que des des petits pays, mais qui recèlent autant de fortunes, et donc forcément peut-on imaginer autant de trafic, de corruption et de là où coule l'argent à flot, forcément d'histoires policières intéressantes.
Ouais, donc c'est vrai, Joseph Cardona, bon, j'avais pas percuté qu'il était suisse, né à Lausanne. Oui. On en a parlé dans cette émission de son dernier roman, et il me semble, Hervé.
Oui, on avait parlé de lui. Mm. On avait parlé, je crois, notamment d'un livre vraiment remarquable qui était paru chez Finitude et qui s'appelle Derrière les panneaux, il y a des hommes.
Voilà, tout à fait, c'est ça. Voilà, je cherchais le titre et je savais que tu allais le retrouver plus vite que moi, le titre.
Voilà, moi, je connaissais aussi un roman qui arrivait à faire le prodige de raconter énormément, à la fois une histoire totalement polar et en même temps raconter tout un environnement pour un livre un peu en lieu clos, si l'on peut dire, puisque c'était sur le parcours d'une autoroute et de ses stations-service, de ses aires de repos, de ses endroits où l'on mange, où l'on dort et tout, avec toute une galerie de personnages. Voilà.
Ouais, donc, moi, j'avais déjà lu aussi Jean-Jacques Busineau, au Rivage. Et donc là, lui, il donne, qui est suisse aussi, une nouvelle au titre pas très suisse, en fin de compte, comme un furoncle sur la fesse de Miss Monde. Donc, un dossier à découvrir sur.
Voilà, un dossier à découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, Busineau, un Cardona, c'est des gens qui ont été, dont les livres sont diffusés ici, qu'on connaît un peu, beaucoup, mais c'est que là, on a un bon panorama sur des maisons d'édition qui font qui font un travail depuis très longtemps. Je pense à la maison d'édition Zoé, par exemple, L'Âge d'Homme, ça on connaît, mais aussi d'autres maisons d'édition. Ça donne aussi à voir le panorama de l'évolution du polar en francophone, en Suisse, de ses propres racines, de son évolution vers comme souvent, ça a commencé un peu par la littérature plus policière et son orientation ces derniers temps vers une vision plus roman noir. Il y a plein de choses. Il y a un point de vue d'éditeur et un point de vue de libraire qui sont tout à fait intéressants. Je pense à, par exemple, cette libraire Stéphanie Berg qui a fait un texte qui s'appelle Le crime fait rêver, que je trouve très intéressant, puisque quand elle dit étrange, ce phénomène de trouver du réconfort dans des récits de criminels et autres tueurs en série, reste que le crime fait rêver, il confronte aux atrocités redoutées, mais toujours avec distance. Une interrogation toujours intéressante sur le type de littérature qui nous attire.
Alors, dans la revue 813, il y a toujours une chronique sur laquelle je me précipite. Ça s'appelle Seconde Chance.
Tu es bien gentil.
À l'heure où les parutions se succèdent avec frénésie, où les nouveautés se bousculent sur les tables des libraires, certains éditeurs ont la bonne idée d'exhumer des joyaux épuisés, réédités, parfois même retraduits. Ces romans entament une nouvelle vie. Et une chronique signée Gwenaëlle Denoyer et Hervé Delouche. Alors là, vous avez choisi, j'ai été surpris, Hervé, vous avez choisi La Maison Hantée de Shirley Jackson. Donc, un intérêt aussi pour ce type de roman fantastique, un peu roman mystère. Hervé ?
Oui, c'est un intérêt qui de toute façon, enfin ce type littéraire, il est aussi un compagnon de route. Enfin, la littérature fantastique ou gothique est un genre à part entière, si on peut dire, mais il accompagne depuis toujours aussi le roman noir, parce que, par exemple, d'abord il y a des auteurs comme Robert Bloch, comme Richard Matheson, qui ont toujours joué dans les deux genres en même temps. Mais il y a par exemple une collection comme la série Blême, qui était faite par Gallimard à côté de la prestigieuse série noire, et dans laquelle on trouvait des textes qui flirtaient avec un certain fantastique, certains l'assumant complètement, je crois au Chien du manoir de Hilda Lorenz, il y a toujours eu quand même un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de femmes notamment, mais aussi des hommes qui ont été dans ce genre-là. Plus récemment, c'était paru à la série noire, quelqu'un comme Ned Crabbe avec La bouffe est chouette à Fatshakoula, des gens comme ça mettaient aussi des notes de fantastique. Et tout près de nous, un auteur qui d'ailleurs a rendu un hommage tout à fait appuyé à Shirley Jackson, c'est Stephen King, dont on sait qu'il joue évidemment sur les registres à la fois du fantastique, du roman de terreur, mais aussi du roman noir, et que c'est aussi un grand... il a écrit aussi des polars, il est à cheval sur les genres. Donc tout ça pour dire que c'est pas incongru, que par ailleurs, nous on aime aussi ce genre de texte. Et voilà, et c'était pour saluer François Guérif. Il avait republié il y a quelques années. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, et il avait dit dans ce livre qu'on a plusieurs fois cité du polar dans cette interview avec un journaliste. Il avait dit que il aimerait bien un jour ressortir aussi la maison hantée. Et il l'a fait, juste avant de quitter la direction de Rivage Noir. Alors, pour en dire deux mots, ça commence avec un anthropologue, le docteur Montag, qui est spécialiste de l'analyse des manifestations surnaturel, tout ce qui est l'étrange, le mystère. Il va venir dans cette maison, et il y vient avec des candidats, et surtout des candidates qu'il a choisies pour l'accompagner dans la quête des manifestations paranormales. Et c'est là que c'est une maison qui est à l'orée d'un village, une maison évidemment très vite assez étrange, et ce qui est évidemment très très intéressant, c'est une double chose, c'est que Shirley Jackson, c'est une femme qui a pas mal écrit, elle a toujours un talent comme ça, alors pour faire vivre le lieu lui-même, de même que la maison qu'il y avait dont nous avons toujours vécu au château, qui a une sorte de qui provoque en elle-même cette maison une sorte d'envoûtement, le lecteur n'est pas tout à fait indemne de ça, il est lui-même un peu pénétré par la maison, et puis il y a surtout notamment une des femmes, Eleanor, dont on va voir, j'ai pas du tout envie de déflorer le texte, mais qui est aux prises avec une certaine folie intérieure, et c'est Shirley Jackson, elle a pas son pareil pour montrer les dérèglements d'un personnage, elle l'a fait dans de nombreuses nouvelles aussi, et ça c'est absolument ce thème des personnages, des dérèglements, de la folie, c'est aussi un thème qui est quand même fort dans le roman noir, et jusqu'à une chute dont je ne vous dirai pas un mot, mais qui est absolument remarquable. Et voilà, c'est par ailleurs un très beau livre du fantastique qui a donné, si je dis pas de bêtises, un film superbe de Robert Wise qui s'appelle La Maison du Diable. Et quand même, signalons une chose, c'est que il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que Shirley Jackson, c'était la grand-mère d'un dessinateur quand même plutôt bien connu, Miles Hyman.
Ah oui.
Et Miles Hyman, et là, Futuropolis a publié une mise en image d'une nouvelle qu'on peut lire donc aussi de Shirley Jackson, qui s'appelle La Loterie, où là il y a une espèce de concours à l'intérieur d'un village, et c'est le dessin est magnifique et le texte est absolument terrifiant.
Alors voilà. Hervé, je pense que nos auditrices, nos auditeurs sont convaincus, il faut accorder une seconde chance à La Maison Hantée de Shirley Jackson, en plus c'est en poche, un Rivage Noir, oui, 8,20 €,
donc pression garantie comme on dit.
Voilà, oui. Donc voilà pour le dernier numéro de la revue 813, numéro 126, l'émission se termine. Hervé, nous avions prévu de parler d'une nouvelle de Russell Banks, et bien on la garde au chaud parce que...
J'ai été trop long.
Voilà. Non, pas du tout. Elle est vraiment très bien, cette nouvelle, extrait de son recueil à membre permanent de la famille. On la garde au chaud, on en parlera.
On reparlera de Russell Banks avec grand plaisir.
Voilà, oui. 10 secondes avant de se quitter en écoutant un autre Brestois, Hervé, 10 secondes pour nous indiquer le rendez-vous à la Bilipo.
Oui, alors, à partir de vendredi prochain, 20 janvier, une nouvelle exposition à la Bilipo, métro Cardinal Lemoine, la Bibliothèque des Littératures Policières à Paris, qui va durer jusqu'au 1er avril, entrée libre, bien évidemment, et c'est autour du grand hebdomadaire des faits divers détectives, qui avait été fondé par la maison Gallimard, d'ailleurs, et détective fabrique de faits divers, et que pas grand chose à voir avec le détective de ces dernières années, disons, et dans laquelle avait écrit de très illustres et de très bons écrivains, Simenon, Macorlan, etc. Voilà, je pense que ça va être avec toutes les archives qu'il va y avoir une très belle exposition.
C'est foutu, c'est trop tard. Mais sur le pont de recouvrance, elle est si belle à voir que je pourrais encore, je pense, m'arrêter un jour de boire.
Voilà, c'était Variation en Noir sur Radio PFM dans Variation, le premier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, merci à vous et oui. À très bientôt.
Et rendez-vous donc dans un mois pour de nouvelles variations en noir. Très bonne lecture en noir à toutes et à tous.
Foutu, c'est trop tard.